le Centre africain d'études supérieures en gestion, le CESAG, ou l'émergence de talents au service de l'Afrique.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour, bienvenue les voisins, les voisines. Je suis ravie d'être avec vous, même avec une petite voix éraillée. Accrochez vos ceintures, on va faire un grand voyage en Birmanie aujourd'hui. Ça y est, le pays est en train de s'ouvrir au monde après 50 ans de dictature militaire. Souvenez-vous de cette année 2012 qui a fait surgir tous les espoirs pour la population avec l'élection de Aung San Suu Kyi. On imagine bien sûr l'euphorie, mais depuis tout reste à reconstruire. Aujourd'hui, si la situation évolue dans le bon sens, le processus de transition en cours dans le pays demeure fragile et incertain. Alors quelle est la réalité sur le terrain? Comment vit la population au quotidien? Qui sont ces femmes et ces hommes aussi qui sont en train de se battre pour la paix et qui transforment la société? Et qu'est-ce qui menace aussi l'avenir du pays? On en parle aujourd'hui avec deux femmes qui connaissent bien ce pays assez méconnu, il faut bien le dire. Je vais commencer à ma droite avec vous, Sylvie Brieux, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes grand reporter, écrivain et vous publiez Birmanie, Les chemins de la liberté aux éditions Albin Michel. Alors c'est un passionnant livre, assez imposant aussi, assez lourd. Vous racontez, c'est vraiment un récit de voyage d'aujourd'hui, mais qui donne la parole à la société civile. Alors vous êtes resté combien de temps sur place pour cette somme de travail sur
ça ? En fait, c'est une enquête qui a duré 3 ans et qui s'est faite au fil de plusieurs voyages. Donc à chaque voyage, mon intention était de pénétrer un peu plus profond dans le tissu social et d'essayer de décrypter ce pays sans chercher une vision exhaustive ou objective, mais de chercher à pénétrer la réalité sociale de ce pays au travers des regards et des voix d'artisans du changement qu'on entendait peu sur la scène médiatique internationale.
Merci. Donc vous allez nous raconter effectivement toutes les rencontres que vous avez faites tout au long de cette enquête, de ces voyages. Également avec nous Pascal Reynard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes coach professionnel, vous êtes spécialisé dans le multiculturel. Et vous allez en Birmanie alors depuis combien d'années?
Presque 14 ans.
Même à l'époque où donc c'était plutôt fermé, où personne ne se rendait sur place, vous y étiez.
Il y avait déjà des touristes, mais on était 100 000, 150 000 à cette époque, et pas les millions qui déferlent aujourd'hui.
Et alors sur vous portez une sorte de chemise en soie, un peu rose, ça vient de là-bas?
Ce sont des tissages traditionnels qui se font autour du lac Inle, dans l'État Shan, et ça fait partie des projets qu'on a soutenus avec les amis qui m'aident, d'ateliers de femmes de tissage. Et en plus ça a été cousu par un autre atelier de couturières, de femmes atteintes du HIV, parfois anciennes prisonnières, qui sont soutenues aussi par des copines qui ont prêté quelques sous pour qu'elles puissent faire vivre ces femmes, leur apprendre un métier.
Parce que voilà, Pascal, c'est vraiment votre... C'est pour ça que vous aimez aller en Birmanie. Vous soutenez, donc, vous prêtez de l'argent, vous soutenez des projets pour tous ces gens qui veulent effectivement développer, qui pensent à leur avenir et qui pensent aussi à améliorer leur quotidien. Donc grâce à ces micro-projets. Alors, donc vous nous racontez ce que vous avez vu l'avant et l'après 2012. Donc on verra un peu comment tout ça a changé. On aura aussi au téléphone Robert Dampnier de l'agence Tiravoix qui emmène des voyageurs depuis 20 ans. Et avec l'ouverture, justement, vous le disiez, Pascal Reynard, les chiffres explosent. Alors pour le meilleur ou pour le pire, on verra. On attend vos questions sur la Birmanie, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine, 7 milliards de voisins.
Sylvie Brieux, donc vous êtes grand reporter. Alors vous aimez travailler sur les peuples autochtones. Vous aviez voyagé pendant plus d'un an en Amérique du Sud, justement en immersion, pour comprendre le combat de ces peuples. C'était l'objet aussi d'un livre chez Albin Michel. Ça s'appelait
Quand s'élèvent nos voix des Andes à l'Amazonie, une odyssée en terre indienne.
Et là, vous êtes allé écouter ces voix de Birmanie, donc un changement de cap. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, j'ai eu l'opportunité, donc je travaille sur différentes régions du monde, comme vous l'avez mentionné, notamment en Amérique du Nord et du Sud. Et ce travail fait partie d'un projet qui a reçu le patronage de l'UNESCO, qui s'appelle « Quand s'élèvent nos voix, diversité, dialogue et solidarité », et dont le but est de promouvoir les voix de la diversité et de tisser des liens entre des communautés. Et surtout d'aborder, d'avoir une vision de leur réalité à travers les actions de gens qui sont porteurs de solutions face à des problématiques qu'on peut également rencontrer dans notre société. Donc la Birmanie, le voyage s'est fait à la faveur d'une opportunité qui était celle de participer à un forum de femmes qui réunissait des femmes essentiellement de différentes ethnies birmanes, enfin de Birmanie, ainsi que des femmes qui étaient PDG au niveau international. Et ce forum était parrainé, ou plutôt marrainé par Aung San Suu Kyi. Donc pour moi, c'était l'opportunité d'aborder le pays sans avoir d'objectif de compte-rendu, de livre ou d'article, mais comme ça, en ayant l'opportunité de rencontrer des personnes qui vivaient en Birmanie et qui jusqu'à présent... dont jusqu'à présent, je n'avais pas eu l'occasion d'entendre les histoires. Puisque
donc ça, c'était le premier pas, votre premier contact avec le pays. Et vous avez eu envie d'y retourner et d'y retourner.
En fait, je n'ai pas eu envie d'y retourner immédiatement, très honnêtement. Je n'ai pas, ressenti d'émotion particulière en Birmanie, hormis pendant, les interviews menées avec ces femmes qui ont commencé à me raconter justement les femmes Kachin, la guerre dans l'État Kachin qui avait été réactivée, la guérilla dans l'État Kachin entre l'armée de l'indépendance Kachin et le gouvernement qui avait été réactivé en 2011 au moment justement où on parlait d'ouverture. D'autres femmes dans l'État Shan ont commencé à me parler des viols dans les zones ethniques. D'autres m'ont parlé de la propagation du discours de haine de moines extrémistes qui fomentaient les antagonismes entre différentes communautés, notamment entre bouddhistes et musulmans. Et donc d'un côté, j'avais ces femmes qui me racontaient ces histoires et de l'autre, d'un autre côté, elles m'ont encouragée à faire le circuit classique que font la plupart des touristes, qui est en Birmanie centrale, donc Bamar de l'ethnie majoritaire et bouddhiste, pour voir le contraste de vision qu'on pouvait en avoir. Parce que comme le disait Pascal tout à l'heure, à partir de 2011, il y a eu une ouverture du pays. Le pays s'est ouvert dans un contexte d'euphorie et de grands bouleversements, puisque le précédent gouvernement, présidé par l'ex-général Thein Sein, a commencé à engranger toute une série de réformes dites progressistes, avec certes leurs limites, mais le pays s'est tellement arrêté de vivre pendant près de 50 ans que c'était déjà perçu comme un progrès.
Et justement, je voudrais revenir sur ce côté, ces 50 années quand même qu'a vécu le pays, une dictature pendant 50 ans. Donc c'était vraiment un pays secret, très fermé. Vous y alliez à cette époque, oui.
J'ajouterais que j'ai très envie de lire le livre de Sylvie. Hein. Mmh. 200 ans de dictature, de colonialisme avant, ou 150 ans de colonialisme, et probablement 2000 ans de féodalisme. Donc, il ne faut pas juste regarder les 50 ans. Donc, il faut voir que les gens aujourd'hui, puisque c'est votre sujet, ils arrivent de loin. Et que l'un des principaux problèmes, le manque d'éducation, fait que les gens sont super naïfs et qu'ils ont tendance, évidemment, à avoir envie de rêver. Et malheureusement, ça c'est, pardon, on est sur un média, mais l'arrivée de l'électricité d'une part, très récente, et de la télé d'autre part, fait qu'ils deviennent, pardonnez-moi, parfois assez bêtes à suivre, comme le disait Sylvie, des extrémistes. J'ai eu des conversations avec des chauffeurs de taxi hallucinantes qui sont comme chez nous, hein, pas plus impactés par des problématiques identitaires et pourtant qui sont très virulents à ce sujet. Et j'ai vu moi aussi des villes brûlées, des endroits où il n'y a pas de raison en apparence, disaient les gens, qu'il y ait des échauffourées avec les voisins qui s'étaient soutenus sur des valeurs très fermes pendant ces 50 ans de très grande dureté, pardon, et qui soudain se mettent à se haïr. On ne comprend pas très bien pourquoi.
Alors c'est vrai que le pays était très verrouillé. Il y a eu ce jour de 2007 quand même où il y a eu ces manifestations et on a commencé à voir que le pays n'était pas si... il se passait quand même des rébellions, hein, en 2007 avec les moines.
Oui, donc il y a eu quand même des rébellions au cours de l'histoire dont on a peu parlé, mais on a un peu parlé, qui ont été un peu médiatisées. Mais c'est vrai que pendant très longtemps, jusqu'à ce moment où le pays a commencé à s'ouvrir, on avait une vision assez manichéenne de la Birmanie, qui était d'un côté la junte et de l'autre une icône de la démocratie qui était incarnée par Aung San Suu Kyi. Donc à partir du moment où le pays s'est ouvert, c'était intéressant d'être à l'écoute de toutes ces personnes qui étaient en marche pour arracher cette liberté qui est quand même encore à conquérir. Parce que malgré les avancées, malgré un nouvel échiquier politique qui s'est mis en place à partir du 1er avril 2016, avec un président qui est un proche d'Aung San Suu Kyi, Aung San Suu Kyi elle-même qui joue un rôle fondamental au sein du gouvernement, l'armée est toujours présente, l'armée occupe toujours des postes clés, dont le ministère de la Défense, de l'Intérieur, des Frontières, 25% des sièges à l'Assemblée, un poste de vice-président. Donc voilà, c'est vrai que ce nouvel échiquier politique fait qu'on est en voie peut-être de démocratisation, mais les bases de la démocratie sont balbutiantes et elles sont fragilisées et sapées par des guérillas qui perdurent et par un discours de haine qui se propage.
Alors le titre même, Birmanie, on parle de la Birmanie, eux appellent ça le Myanmar. C'est quoi le vrai nom qu'on devrait utiliser, Sylvie Brieux ?
En fait, le pays officiellement a été renommé Myanmar en 89. Et ce jeu de dialectique et d'hésitation entre Birmanie et Myanmar, il est vraiment côté occidental parce que pendant, même encore, certaines administrations occidentales jusqu'à présent refusaient d'utiliser le mot de Myanmar parce qu'elles soutenaient Aung San Suu Kyi dans sa lutte lorsqu'elle était en résidence surveillée et qu'elle-même n'appelle pas la Birmanie Myanmar puisque le nom de Myanmar a été imposé par la junte. Donc le fait d'appeler le pays Birmanie était un acte de résistance au niveau de la dialectique. Maintenant que les relations diplomatiques sont en voie de normalisation, même l'administration américaine commence à appeler la Birmanie Myanmar, mais l'ambassade de France en Birmanie s'appelle l'ambassade de France en Birmanie, mais dans certains communiqués, on retrouve Myanmar. Donc. Mais la population, quand vous leur posez la question, la plupart appellent le pays Myanmar, sauf encore certains qui sont en exil politique. Mais c'est pour eux, c'est un détail, c'est vraiment
c'est quand même une manière de s'appeler, c'est quand même important de savoir comment on se nomme. Non,
Pascal Reynard. du temps colonial, les Anglais ont pris le nom de l'ethnie principale que vous avez prononcée tout à l'heure, Sylvie, qui sont les Bama, qui représentent presque 50%, je crois, des ethnies locales, et tout tournait autour de ces gens-là. Donc Burma, Birmanie, c'était le nom d'une des ethnies. Et la volonté du gouvernement, quand il a essayé de se redorer son blason dans les années 97-98, ça a été de rassembler dans une constitution, ceci dit, questionnable pour d'autres raisons, toutes les ethnies présentes. Et donc l'union du Myanmar est apparue à ce moment-là. Et localement, les gens s'appellent, ils s'appellent jamais Burmese ou Burma. Ils comprennent même pas quand on parle de ça.
Donc ils s'appellent comment alors ?
Myanmar. Myanmar people.
En fait, les gens qui utilisent l'appellation Birmanie encore, ce sont les gens qui sont toujours exilés. Voilà. Parce que ça reste un acte de résistance. Hein. Mais voilà, le dilemme est surtout côté occidental quand on va en Birmanie. Bon, le livre, on l'a appelé Birmanie parce qu'en fait, en France, Myanmar, ça a peu de résonance. Et c'est pour une question de code culturel et pour que les gens comprennent de quoi on parle.
Alors, comment la Birmanie opère sa transition vers la démocratie ? On continue après. Welcome to Yangon, c'est de MHA. On voyage en Birmanie aujourd'hui, les voisins, les voisines, avec Pascal Reynard, coach multiculturel, et Sylvie Brieux autour des chemins de la liberté. C'est son livre qui vient de sortir chez Albin Michel. Alors vous écrivez, Sylvie Brieux, que ce livre en fait vous a dérouté.
Alors, c'est
ce
pas,
pays vous a dérouté.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est plutôt le pays m'a dérouté. Donc, ce que j'avais commencé à dire en introduction, c'est que quand j'y suis allée une première fois, en fait, j'avais pas forcément envie d'y retourner parce que je le trouvais très compliqué. Et surtout, ce décalage de perception entre, d'une part, l'enthousiasme et l'euphorie liés à cette phase de transition qui a eu lieu à partir de fin 2010-2011, et la Birmanie qui soudain a été perçue comme un nouvel Eldorado, et toutes ces populations qui étaient en lutte, hein, et qui disaient clairement que rien n'était encore acquis et que tout était fragile. Certes, tous les espoirs étaient permis, mais il y avait encore beaucoup de luttes à mener. Ça m'a troublée. Et en fait, mon trouble a été confirmé lors de mon premier voyage, lorsque je suis partie de Rangoon à l'aéroport. J'ai rencontré un couple de touristes français, donc je leur demandais ce qu'ils avaient aimé dans la Birmanie, parce que moi, c'est vrai qu'en faisant le circuit classique qu'on évoquait tout à l'heure, qui passe notamment par Mandalay, Bagan, Inle, moi, j'ai ressenti aucune émotion. Et toutes les personnes que je rencontrais me disaient « c'est magnifique, les gens sont tellement gentils, ils sont souriants ». Et en fait, j'ai vécu ce circuit classique à la lueur de tout ce que m'avaient raconté ces femmes à Rangoon. Et là, ça m'a troublée parce que j'ai eu l'impression d'être, si vous avez vu ce film, The Truman Show, comme un personnage qu'on manipulait et auquel on donnait à voir une perception de la Birmanie, au charme suranné, au charme romanesque, encore préservé entre guillemets.
Et donc, il y avait un décalage entre l'image qu'on vous transmettait et ce que vous aviez, les rencontres que vous aviez effectivement faites. Il y avait un décalage, quoi.
C'était un décalage, mais qui était troublant parce que quand on parle de violation des droits de l'homme, donc on va en parler tout à l'heure, mais du cas des Rohingyas qui vivent une tragédie sans nom, du cas des Kachins qui est une minorité chrétienne dans le nord de la Birmanie, dont certains vivent dans des camps déplacés et souffrent de pénurie alimentaire. Quand on parle de gens victimes, de femmes victimes de violences sexuelles par, entre autres, l'armée nationale birmane qui commet ces crimes en toute impunité, on peut pas tourner les talons et partir de ce pays, surtout quand on est journaliste.
En disant que c'est le plus beau pays d'Asie du Sud-Est.
Voilà, et surtout en se disant que ce pays appelle quand même à une perception plus nuancée de la réalité parce qu'il est mu par des dynamiques extrêmement complexes. Donc, on ne peut pas avoir une vision unilatérale qui est ou tout blanc ou tout noir.
Et trop simpliste. Mmh. Pascal Reinhardt, alors vous qui fréquentez ce pays donc depuis 14 ans, vous avez assisté à cette ouverture. Vous faites du microcrédit, vous soutenez donc des habitants dans leur projet. Alors, comment vous avez observé, vous, ce changement?
Oui, c'est vrai, depuis 13 ans ou presque 14, je crois que j'ai passé presque 3 ans de ma vie en Birmanie. Et donc, j'ai vu des évolutions. Je n'aime pas le mot d'ouverture personnellement parce que je trouve qu'il est placé d'un point de vue trop occidental. Et en particulier, ce que j'ai vu pénétrer par ces frontières effectivement enfin ouvertes, c'est d'une part des chevelus dreadlockés, plus jeunes que moi, certes, qui ne me donnent pas une très bonne image des visiteurs là-bas et qui d'ailleurs ne donnent pas une bonne image aux personnes qui s'occupent de tourisme en Birmanie, mais aussi des entreprises internationales chinoises, vietnamiennes, indiennes, ils n'ont pas attendu que les Occidentaux, qui arrivent comme des charognards. C'était les dernières licences de téléphone portable, c'était les derniers endroits où il n'y avait aucune usine de ciment, donc ils sont arrivés, et Dieu sait que ça construit dans tous les sens maintenant, et sans aucune, évidemment, attention aux gens qui, eux, croient que ça y est, c'est arrivé, et que je vois se faire gentiment arnaquer par des banques qui ouvrent des comptes, qui font des crédits. Il y a des gens endettés depuis 3 ans, mais de folie. J'ai aidé longtemps des gens à payer leurs petits emprunts. Les emprunts là-bas étaient phénoménalement horribles, comme dans pas mal de pays en Asie, puisque emprunter de l'argent, c'était rapidement 50-60% d'intérêt annuel pour payer 3 cochons, pour faire une cérémonie. Mais maintenant, ils ont le même endettement, mais envers une institution officielle. Et là, ils sont pieds et poings liés, et c'est horrible.
Alors, vous restez avec nous, parce qu'on va continuer dans 3 minutes avec justement des figures aussi d'hommes et de femmes qui luttent pour la paix, ces artisans du changement, ceux qui sont en train de transformer la société en profondeur. Et avec nous, vous restez, hein, Sylvie Brieux, vous publiez Birmanie, les chemins de la liberté chez Albin Michel, et Pascal Reinhardt, coach international et qui mène donc des projets en Birmanie. On attend vos appels au 33 1 84 22 71 71 et sur Facebook.
Autour de la question. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue les voisins, les voisines, vous qui nous rejoignez en Birmanie.
Et oui, on voyage dans ce pays qui bouge en pleine transition après 50 ans de dictature. Et il avance vers l'apaisement, mais il est long le chemin. Alors comment vit la population au quotidien cette transition, le rapport entre les différentes ethnies? Quelles sont aussi les figures qui sont engagées dans le changement et qui œuvrent donc pour la paix? Des gens que vous avez rencontrés, Sylvie Brieux, et que vous racontez dans votre dernier livre « Birmanie, les chemins de la liberté » aux éditions Albin Michel. Et vous, Pascal Reinhardt, coach professionnel spécialisé dans le culturel. Et vous allez justement en Birmanie pour soutenir des projets depuis bientôt 14 ans. Alors les voisins, les voisines, posez vos questions 33 1 84 71 71 et sur Facebook. Alors j'ai envie de commencer par une anecdote, enfin qui n'en est pas une quand même, quand on vit là-bas et qu'on roule sur place. Alors vous disiez que c'était un pays pas facile à cerner, que vous étiez dérouté. Mais alors sur la route aussi, il y a de quoi perdre son latin, Sylvie Brieux.
Oui, mais justement, ce qui est intéressant dans ce pays, c'est de se laisser dérouter. Parce que de se laisser dérouter, ça permet d'ouvrir de nouvelles voies de compréhension, toujours sans chercher à être au plus juste. Mais
on roule à droite ou à gauche.
Eh bien, c'est justement une anecdote que je raconte dans le livre, où le chauffeur de taxi qui me conduit à ma première pension birmane à mon arrivée là-bas, qui s'appelle Zozo et qui est plein d'humour, me dit, je lui dis, mais excusez-moi, vous roulez à droite ou à gauche? Et puis là, il me regarde, il se gratte la tempe et il me dit 80% du temps à droite et 20% du temps à gauche. Et puis des fois, ça dépend. Parce qu'en fait, bon, la Birmanie est quand même une ancienne colonie britannique. Donc longtemps, les gens roulaient à gauche. Et puis, il y a eu ce dictateur Newin qui, à un moment donné, a été pris d'une lubie superstitieuse. Et il a décidé du jour au lendemain que les gens ne rouleraient plus du même côté de la circulation.
Donc ça, c'est décidé comme ça, en un claquement
voilà.
de doigts.
Mais comme le disait Pascal dans l'intermède qu'on a eu tout à l'heure, beaucoup de véhicules sont importés de Thaïlande. Il y en a aussi qui sont importés du Japon. Et donc, les volants ne sont pas du bon sens de la circulation, en fonction du sens où on décide de conduire.
Parmi les exemples de changements qu'on voit récemment, en effet, les frontières ont été ouvertes aux imports. Un ami qui avait acheté en 95 une vieille voiture 10 000 $ a pu la revendre en 98 15 000 $. C'est vous dire combien les véhicules étaient coûteux. Aujourd'hui, on voit plein d'énormes grosses voitures qui circulent. Avant, on mettait 20 minutes pour aller du centre de Rangoon au sud. Maintenant, on met parfois 3 heures. Parce que ce qui n'a pas été importé avec le permis de conduire, avec les voitures, c'est le permis de conduire. Donc c'est vraiment hallucinant parce qu'il y a zéro savoir-vivre. Ça, il faut dire, les nouveaux riches, ils s'amusent bien. Et puis, il y a plein de gens écrasés là-bas. Parmi les nouvelles choses qu'on voit, c'est je paye des frais d'hôpitaux pour des gamins qui se sont fait écraser vraiment fréquemment. C'est hallucinant.
Alors, vous payez les frais d'hôpitaux pour les gamins écrasés. Ça, c'est une drôle de... Enfin, c'est à l'air nécessaire. C'est un sacré soutien, oui. Puisque le système de santé, je crois, n'est pas très au point. Mais alors, quels sont les projets que vous soutenez en ce moment, par exemple, Pascal Reinhardt?
En fait, moi, j'ai commencé comme à peu près tous les touristes naïfs, c'est-à-dire que j'ai donné 3 sous à gauche, 3 sous à droite. J'ai eu la chance de tomber sur des gens honnêtes, des Birmans, avec qui on a commencé à monter 2 orphelinats, qui sont depuis pris en charge par une fondation suisse, c'est plus du tout dans mon giron, puisque c'était principalement mon argent, puis de l'argent que j'ai ramassé auprès d'amis et de confrères. Plusieurs catégories, mais la première chose, c'est que j'ai commencé à faire mon métier, c'est-à-dire que dans les T-shops, j'ai discuté avec des gens, et puis ils avaient plein de rêves, et je leur donnais un coup de main pour faire émerger ce rêve, le rendre concret et réaliste, et je faisais quelque chose qu'un coach ne fait pas ensuite, en tout cas pas en France, c'est que je leur prêtais de l'argent. Pendant 10 ans, tous les prêts que j'ai faits, qui allaient de 50 à 1 000 $ pour le plus gros, m'ont été remboursés intégralement, avec honneur, avec un petit bout de papier signé dans un coin. Maintenant, c'est plus difficile de me faire rembourser, alors que les gens sont bien plus prospères. Je commence donc vraiment à reculer sur des prêts. D'abord, les gens ont besoin de plus d'argent. Par contre, ce qu'on continue absolument à faire, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure, ce sont des projets qui aident, des projets de femmes. Donc, c'est intéressant d'être là avec Sylvie. Femmes de classe moyenne ou populaire, d'à peu près partout. Quand on nous indique un projet, on l'étudie, on voit si on le soutient.
Ça donne quoi, par exemple, en ce moment? Quel genre de projet?
Alors, par exemple, 12 femmes qui se rassemblent, qui veulent apprendre la couture, à qui on offre un lieu, donc on paye le lieu. On paye un petit salaire qui devient de plus en plus grand. On les aide à trouver un débouché pour ce qui est cousu, comme la chemise que je porte. Et puis, on les aide à monter en puissance. Alors, quand je dis on les aide, moi, j'y vais qu'une fois par an maintenant, hein, mais on trouve des relais locaux. Il y a plein de gens qui font du empowerment, qui les aident à monter en puissance, des petits séminaires, pour arriver à trouver des sources de pour trouver des fils, pour trouver des tissus qui ne soient pas juste en allant au marché. Et puis, à la fin des quelques mois, on les aide aussi, on leur offre une dotation qui permet d'acheter une machine à coudre, de démarrer. Pour la plupart, on les aide à mettre en place, et pour ça j'ai un relais fantastique à Rangoon, une femme d'une générosité incroyable. On les aide à rentrer dans des systèmes de soins, parce qu'ils leur échappent complètement. Et puis à continuer à être soigné plus tard et à revenir faire des petits séminaires pour continuer à pas se faire arnaquer, en gros.
Ouais. Donc les femmes, on le voit, elles jouent un rôle important, en tout cas pour préparer aussi ce pays au changement. Sylvie Brieux, quelles sont les femmes qui vous ont touché, alors, parce que vous parlez souvent de l'autonomisation, hein, des femmes, quelles sont leur place dans la société?
Ben là, elles jouent un rôle vraiment déterminant dans cette phase de transition. Et en fait, je n'ai pas cherché spécifiquement à rentrer en contact avec des femmes, mais elles se sont imposées comme des leaders. En fait, une historienne m'expliquait birmane, que les femmes avaient toujours joué un rôle très important dans la société birmane, au niveau économique notamment, qu'elles étaient souvent, elles avaient une détermination sans faille et qu'elles n'hésitaient pas à prendre des initiatives. Et ce rôle a été diminué pendant la phase de dictature, mais elles ont joué un rôle important pendant la période anticoloniale et pendant la Seconde Guerre mondiale. Et depuis quelques années, maintenant depuis 2011, elles commencent à réoccuper le devant de la scène. Et en fait, les femmes n'hésitent pas à embrasser les problématiques auxquelles la population est confrontée, mais au lieu de se dissoudre dans la totalité des problèmes, elles embrassent des problématiques à portée universelle, c'est-à-dire qu'elles vont lutter contre la montée des intégrismes, elles vont lutter pour la justice sociale, elles vont lutter pour la pacification du pays. Et pour rendre ce que je suis en train de dire un peu plus concret, il y a une femme notamment qui m'a touchée, mais en fait toutes celles dont je parle, elles m'ont évidemment touchée. Enfin, il n'y en a pas une, très honnêtement, qui ne m'ait pas touchée, parce que hormis leurs activités professionnelles, elles ont toutes une casquette sociale ou même plusieurs. Donc il y a cette femme qui s'appelle Lapai Sengro, qui est une dame qui a reçu le prix Max Essé en 2013. Et le prix Max Essé en Asie, c'est l'équivalent du prix Nobel de la paix. Et elle a reçu ce prix parce qu'elle travaille avec les communautés de base. Alors au départ, c'est une femme qui a monté la première ONG locale. Elle a cofondé la première ONG locale en Birmanie qui s'appelle Meta Development Foundation. Et elle œuvrait au départ essentiellement dans l'État Kachin, où cette guérilla a été réactivée en 2011 et où elle perdure toujours aujourd'hui.
Donc c'est un État qui est chrétien, c'est ça ?
À majorité chrétienne, oui. Voilà, et dans l'État Shan du Nord qui est également en guerre. Et elle œuvrait avec son équipe, avec des communautés de base, pour préparer les gens à un futur de paix. Parce qu'il faut savoir qu'on parle de gens qui ont été déplacés dans ces états-là. En Birmanie, on estime qu'il y a à peu près 600 000 déplacés internes. Donc c'est un chiffre à la louche, parce que comme la plupart des chiffres, ils sont invérifiables. Mais c'est un chiffre qui est communément admis par les institutions internationales et les ONG. Donc elle travaille toujours dans ces camps de déplacés, elle travaille dans ces communautés, elle les aide avec du microcrédit également dans les camps de déplacés à se reconstituer en fait une dignité aussi. Et elle travaille également sur les dégâts psychologiques, hein, parce qu'elle dit très bien qu'une fois que la société sera en voie de pacification, il va falloir quand même s'occuper de tous ces gens qui souffrent de traumatismes psychologiques.
Alors, c'est justement une question de Razafi, de Antoine Arriveau, qui arrive sur Facebook. Il nous dit, on connaît peu la situation de ce pays à travers les médias. Beaucoup de violences, de viols aussi, vous l'avez dit, Sylvie Brieux. Il y a beaucoup de victimes dans ce pays. Est-ce qu'elles sont prises en charge et par qui ?
Alors là, c'est une question difficile, parce que les victimes... En fait, on parle de différents types de victimes. Les victimes de viol, déjà, elles ne sont pas prises en charge, puisque les viols ne sont pas reconnus la plupart du temps, et que quand ce sont des viols commis par l'armée nationale, ils les commettent en toute impunité. Donc ils sont rarement poursuivis, rarement jugés, et les victimes obtiennent rarement réparation, si tant est qu'on peut obtenir réparation d'un viol. Donc non, elles ne sont pas prises en charge. Il y a des ONG qui sont très actives, de femmes qui dénoncent régulièrement ces viols dans les États Kachin, Shan, Chin, Arakan, etc. Mais non, il n'y a pas de prise en charge des victimes. Pour ce qui est des victimes victimes de guérilla, elles sont en fait, par exemple, la question est complexe parce que le pays lui-même n'est pas simple et en fonction des États, la réalité est différente. Si on prend l'exemple de l'État Kachin, les victimes, ce sont les gens qui sont victimes de la guérilla, par exemple, et ces gens ont été... se sont déplacés de leur village vers les villes. Ils se sont réfugiés dans les églises ou dans les temples protestants parce qu'ils n'ont pas confiance dans le gouvernement. Et ces églises et ces temples, sur leurs terrains paroissiaux, ont construit des baraquements de fortune pour les accueillir parce qu'ils étaient submergés par la demande. Et donc, elles ont été prises, si on peut dire en quelque sorte, elles sont prises en charge par les églises et les temples, mais qui sont submergées par l'immensité de la demande. Dans les cas d'Arakan, c'est encore une autre problématique avec les minorités musulmanes qui sont persécutées, dont celle des Rohingyas, dont on entend parler de temps en temps et qui est apatride en plus de tout ce qu'elle subit comme violation des droits de l'homme. Et récemment, il y a un rapport de l'ONU qui a qualifié le déni de citoyenneté des Rohingyas qui ont été déchus de leur citoyenneté en 82, les violences sexuelles qu'ils subissaient et le travail forcé comme étant susceptibles d'être jugés comme crimes contre l'humanité.
Alors c'est vrai que c'est un des peuples les plus persécutés au monde, hein, c'est ce qu'on dit, parce qu'il y a Mahamat de N'Djamena qui nous pose la question, mais pourquoi la communauté internationale ne parle pas des massacres justement de minorités musulmanes en Birmanie? Ces violences sont tues, il ne comprend pas pourquoi.
Alors, la communauté internationale en parle peu par rapport à l'immensité, c'est sûr, de la tragédie qui est en train de se jouer. Alors, je ne peux pas vous dire pourquoi elle n'en parle pas, mais il y a beaucoup de tragédies qui jouent dans le monde dont personne ne parle jamais. Donc, en Birmanie, on en parle un peu quand il y a une escalade dans le drame, par exemple, quand des gens ne pouvant plus supporter une situation intolérable essaient d'aller chercher ailleurs un peu d'espace pour pouvoir respirer et exister et qu'ils se noient en mer, par exemple. Donc là, on va en parler, ce qui est assez cynique, d'ailleurs. Mais surtout, le problème, c'est que c'est de réduire en fait ce drame et cette tragédie qui se joue avec les Rohingyas à un problème purement religieux, parce que ça fomente les antagonismes entre communautés. Ce n'est pas qu'un problème religieux, c'est un problème religieux, c'est un problème ethnique, c'est un problème politique, c'est un problème économique, c'est un problème historique et c'est un problème conjoncturel. Donc le problème est extrêmement complexe.
Alors on va continuer après, on va écouter un peu de chant, une musique, ça s'appelle Myanmar Future Generation et on parlera de l'explosion du tourisme justement dans ce pays. Est-ce un bien ou est-ce un mal ?
Thank you.
Un vent nouveau souffle sur la Birmanie. On entend donc ce groupe, un Myanmar Future Generation. Les voisins, les voisines, on voyage donc pour mieux connaître ce pays qui a été fermé quand même sous une dictature assez féroce pendant 50 ans. Alors côté musique, Pascal Reinhardt, là on entend ce groupe de rap assez underground. La musique aussi émerge depuis 3 ans ou ça a été une constante?
Certainement, il y a plus de groupes de musique. D'abord, il y a plus de gens qui ont l'électricité, qui peuvent recharger des iPods et d'ailleurs qui s'équipent en iPod et autres. Pour autant, depuis que j'y vais, je rencontre des gens qui adorent la musique, qui en font. Les textes étaient censurés. Alors, c'est développé toute une série de musiques romantiques et sur des rythmes pas mal rock ou rap, comme on vient d'entendre, parce qu'ils écoutaient quand même d'autres choses qui étaient apportées, entre autres, par des touristes. La peinture aussi était un moyen d'expression. J'ai soutenu des peintres qui étaient assignés à résidence en leur donnant de quoi survivre, hein, et puis en rapportant leurs tableaux pour les vendre ici. Et ils avaient, il y a tout un groupe plutôt autour du National League for Democracy qui continuait à peindre. Et les tableaux, sans faire du romantisme, soit étaient cachés dans un coin, soit étaient vendus assez officiellement. Donc il y avait aussi ça. Je voudrais dire quelque chose à propos des femmes. Je suis absolument d'accord avec Sylvie. Il se trouve qu'on est 2 femmes ici. Mais parmi les gens en qui je continue à avoir confiance en Birmanie lorsqu'ils me demandent de l'aide sur un projet, il y a principalement les femmes. Dit autrement, les tentatives d'arnaque que j'ai enfin vues arriver, ou malheureusement enfin vues arriver depuis 2 ans, sont toujours le fait d'hommes qui disent « Tiens, il y a une vache à lait à traire là-bas, on va aller lui raconter une histoire à dormir debout à laquelle je ne souscris pas. » Et les maintiens des valeurs qu'on voit s'éparpiller complètement parce que soudain, on n'aide plus le voisin, mais on essaye d'être un peu plus prospère que lui. Ce maintien de valeur est vraiment grâce aux femmes.
Ce que vous dites, c'est que maintenant, les gens veulent leur part du gâteau aussi, c'est ça, les hommes revendiquent.
Quel gâteau.
Et quel gâteau, parce que quand même, c'est 9% de croissance, j'ai vu, donc c'est le plus fort taux de croissance, le plus rapide de la planète, hein, sur 2014-2015.
Une anecdote qui m'a horrifiée il y a 2 ans. Je vais voir une femme que j'ai aidée à monter un petit atelier de tissage, encore une fois, pas très loin du lac Inley, à 3 heures de route. Et puis, je lui prends quelques foulards qu'on vend dans nos ventes en France en décembre. Et là, soudain, le foulard est plus à un tarif que je l'avais aidé à établir, mais $50 le foulard. Je lui dis, mais écoute, oui, et mon prix à moi. Et toute gênée, elle met son nez dans son manteau et elle me dit, non, il n'y a pas de prix, il n'y a pas de prix. Je dis, enfin, écoute, $200, c'est une fortune. Et j'entends de derrière le comptoir une voix d'homme que j'avais jamais vue avant, un gars assez gros, ce qui n'est pas très bon signe en général, ça veut dire qu'ils ont à manger, en train de jouer avec son téléphone portable et qui me dit nonchalamment, $200 c'est rien, parle-moi de 30 ou de $50 000 et là on commence à discuter. Et ça, c'est quelque chose que j'avais jamais entendu avant. Et certes, la plupart des gens sans éducation confondent allègrement 100, 1000, 10 000 et 100 000. Mais là, j'avais vraiment la femme qui avait été indépendante, qui soudain ne l'était plus, ça c'était son histoire, et qui était plus capable d'avoir son libre arbitre sur une commission qu'elle me consentait.
Alors, on va prendre au téléphone maintenant Robert Dompnier, qui est fondateur de l'agence Tirawa et qui emmène donc des groupes en Birmanie depuis oula. Maintenant, ça fait bien 20 ans. Bonjour Robert Dompnier.
Bonjour Sandrine.
Alors on n'a pas encore parlé des beautés peut-être de ce pays en tant que voyageur. Il y avait l'écrivain Rudyard Kipling qui avait décrit la Birmanie comme un pays qui ne ressemble à aucun autre. Est-ce que c'est toujours le cas?
Oui, bien sûr, quand on sait trouver les coins, un petit peu les coins isolés. Vous savez, la Birmanie est un grand pays. Hein. N'oublions pas que c'est plus grand que la France et que ça fait 2000 km du nord au sud. Aussi, même si les régions, les sites exceptionnels comme Pagan, le lac Inley, Mandalay sont des régions aujourd'hui très visitées avec beaucoup de touristes, c'est un grand pays et donc on peut toujours visiter des coins ou des petits recoins, toujours très attachants et très, très intéressants. Et puis en plus, avec là, on va dire, un peu l'ouverture auquel on assiste depuis plusieurs années, on a maintenant des États, je pense notamment à l'État Kaya qui viennent de s'ouvrir. Et là, il y a des merveilles à découvrir.
C'est-à-dire qu'il y a encore des zones interdites pour un voyageur, pour un touriste?
Alors oui, il reste quelques zones interdites, comme vous l'avez évoqué avec vos invités. Bien sûr, il y a des régions qui sont encore un peu instables au niveau politique, et notamment, je pense, au nord de l'État Kachin, hein, au nord-est de l'État Kachin, où il y a encore... etc. Donc, tout n'est pas ouvert en Birmanie, mais il y a quand même eu ces dernières années de nombreuses régions qui sont ouvertes, et voilà, et aujourd'hui, où il n'y a personne. Et c'est absolument fantastique à découvrir.
Et alors, quelle différence vous faites, puisque vous emmenez des groupes depuis une vingtaine d'années, avec l'ouverture, oui. On dit que le nombre de touristes a explosé. Quels sont les chiffres aujourd'hui ?
Alors, écoutez, j'ai pas malheureusement, je ne peux pas vous donner les chiffres exacts. Ce que j'ai constaté, effectivement, le tourisme a explosé. Et nous, on a eu une répercussion directe sur cette explosion du tourisme. C'est que, si vous voulez, on a au niveau infrastructure, une sous-capacité en Birmanie. Et par exemple, les hôtels qu'on utilisait il y a 10 ans et qu'on payait $70 la nuit, eh bien, en quelques années, ils ont multiplié leur prix par 3 ou 4. Si bien qu'aujourd'hui, des hôtels, je pense à des hôtels de Mandalay ou de Yangon, qu'on utilisait autrefois, aujourd'hui, deviennent inaccessibles, on leur a des prix tout à fait exorbitants. Donc ça, effectivement, c'est dû à cette arrivée massive de tourisme depuis que la Birmanie s'est enfin ouverte à plus de liberté, plus de démocratie, plus de droits de l'homme. Et ça a été le revers de l'histoire. Mmh. Cette sous-capacité en infrastructure hôtelière a fait que les prix ont flambé.
Mais est-ce qu'on peut dormir chez l'habitant, par exemple ? Est-ce que on parlait d'ouverture ? Ah, les deux, Sylvie Brieux, parce qu'elles font non de la tête, oui, Pascal Reynard. On ne peut pas dormir chez l'habitant. Ouais.
Ah ben moi, je vous dis le contraire.
Ah, voilà, vas-y, voilà.
Je suis désolé de contrarier mes amis que je salue. Nous, on utilise, par exemple, sur des treks comme... de la Birmanie, à partir de Putao, donc près des montagnes enneigées. N'oublions pas qu'il y a des montagnes enneigées dans le nord de la Birmanie, même si ce n'est pas une image qu'on a fréquemment à l'esprit.
C'est vrai qu'on n'a pas fait beaucoup de géographie, mais c'est quand même coincé entre l'Inde et la Chine. Donc effectivement, au nord, on est dans les montagnes.
Mais oui, exactement. Voilà. Le Kakaburazi fait presque 6000 mètres, hein, c'est pas rien.
Presque 6000.
Presque 6000, oui. Presque 6000 mètres. Hein. 5800 et quelques. Et puis, vous avez également des treks qu'on fait dans la région du lac Kiné, chez les Pao. Là, on dort dans les familles, on dort chez les gens, mais depuis longtemps déjà. Alors, c'est peut-être pas une pratique très répandue, mais en tout cas, nous, on le fait, on n'a jamais eu de problème. Et voilà, on peut le faire comme ça, sur des choses. Ouais. Oui,
alors, vous n'avez pas de problème, Robert Dampier, Sylvie Brieux, est-ce que vous avez pu dormir chez les habitants
ou... Je voulais juste dire à Robert, parce que j'entends ce qu'il dit, mais il me semble que pour dormir chez l'habitant, il faut quand même demander une autorisation. Ça ne peut pas se faire spontanément, Robert.
Évidemment, c'est interdit. On va être clair. Okay. Moi, il m'est arrivé de rentrer chez des gens cachés sous une couverture. Sauf lorsque, comme les PAO, qui sont très proches du gouvernement et qui ont réussi à prendre la mainmise sur tout le tourisme autour du lac Inle, ils ont réussi à avoir des autorisations. Et par ailleurs, évidemment, sur des treks, il n'y a pas d'infrastructure hôtelière. Donc, pour que le trek existe, qui redore bien l'image du pays, ils sont bien obligés de vous laisser dormir chez les gens. Mais quand on veut aller dans un endroit modérément touristique, où il n'y a plus d'hôtels, j'ai vu des moments où les gens allaient dans des monastères, les touristes étaient envoyés sur des monastères, il n'était pas question que les locaux ouvrent leur maison.
Donc ça reste encore D'accord. un pays effectivement assez fermé, alors qu'on a vu Cuba par exemple, où c'est autorisé facilement d'ouvrir sa porte à des touristes, donc ça reste encore très, très fermé en Birmanie.
Alors entendons bien, chacun a son niveau d'expérience. Hein. Moi c'est vrai qu'à Rangoon, les gens me disaient que pour loger chez eux, il fallait qu'ils demandent une autorisation. Je n'ai pas l'expérience de Robert ni celle de Pascal, donc je vois les choses à mon niveau. Après j'entends que
ma quasi-fille, les expériences soient différentes. Dans une région touristique qui est celle du lac Inle, qui est une femme que j'aide depuis des années, qui était guide de trek d'abord, d'ailleurs soumise à pas mal de discrimination parce qu'il y avait bien assez de garçons qui faisaient des guides de trek, donc ils ne voulaient pas la laisser faire, a maintenant ouvert une école de cuisine et tente de faire une petite guest house. Je l'ai aidée à acheter la licence pour faire guest house, pour accueillir des gens chez elle, c'est ce dont elle rêve. Et la limitation, c'est d'avoir d'abord 10 chambres avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Et pour le moment, elle en a 2, elle n'a pas les moyens, d'ailleurs je fais appel à don si on veut l'aider, hein. Elle n'a pas les moyens d'en faire plus et elle est constamment vérifiée pour voir si par hasard elle n'aurait pas laissé un touriste traîner chez elle le soir.
Merci beaucoup, hein, Robert Dampnier. Donc, vous êtes fondateur de l'agence Tirawa et vous emmenez donc des groupes maintenant en Birmanie depuis plus de 20 ans. Merci d'avoir été avec nous en direct. Je voudrais terminer avec vous, Sylvie Brieux, puisque vous avez enquêté sur ce territoire, sur la Birmanie. Si ça n'a pas été trop difficile, trop compliqué, on sait que la liberté d'expression et de la presse, quand même, ce n'est pas la chose la plus appréciée par l'État là-bas. Alors, quels sont les risques pour les journalistes? Et est-ce que vous vous êtes senti menacée à un moment dans votre enquête?
Non, pas du tout. Mon principal dilemme au cours des 3 années, c'était de savoir si le fait de médiatiser les actions de ces hommes et de ces femmes qui étaient en marche et qui faisaient tout pour pacifier le pays, parce qu'en fait je me suis intéressée quand même davantage aux artisans de paix qu'aux propagateurs de haine, parce qu'on n'a pas parlé de ce moine extrémiste Viratou qui entraîne dans son sillage tout un tas de bons extrémistes, mais je me suis davantage intéressée aux initiatives de paix pour contrer cette problématique. Donc moi, personnellement, je ne me suis pas sentie menacée, mais à chaque étape de mon enquête, je me demandais, est-ce qu'il faut médiatiser ça? Est-ce que médiatiser les noms des gens? Est-ce que médiatiser leurs actions n'aura pas une influence négative? Donc en fait, pendant 3 ans, je n'ai pas su si j'allais publier. Au départ, je ne savais pas si c'était un livre. Et puis quand j'ai commencé à me dire ça pourrait être un livre, j'en ai parlé avec les gens que j'avais rencontrés, que j'avais interviewés. Et puis au final, la décision a été prise de le publier en accord avec eux. Donc certains, j'ai donné leur nom en pensant que ça pouvait les aider si d'autres voulaient soutenir leurs actions. Et d'autres, je ne les ai pas donnés parce qu'ils sont dans des positions trop délicates, même s'ils m'avaient donné l'autorisation parce que j'ai estimé que c'était trop dangereux pour eux.
Vous n'avez pas voulu les mettre en danger.
Absolument.
Merci beaucoup, hein, Sylvie Brieux, donc grand reporter, écrivain. Vous publiez Birmanie, les chemins de la liberté aux éditions Albin Michel. Merci aussi, Pascal Reynard, pour nous avoir parlé de tous les projets que vous soutenez là-bas, en Birmanie. Vous êtes coach professionnel et spécialisé dans le multiculturel. Merci à toute l'équipe. Et demain, comment vivre après les attentats, après l'onde de choc de 2015, comment nos sociétés apprennent à vivre avec vos témoignages au 33 1 84 22 71 deux fois.
C'était 7 milliards de voisins avec le CESAG, l'institution de formation en management sous tutelle de la BCEAO.